Chapitre 3. À partir de cette nuit, Jean Servien passa ses journées à traduire Mira par Lambeau avec une peine infinie. Ce travail lui ayant un peu appris à faire les vers, il composa une élégie qu'il envoya par la poste à la tragédienne. Et cette poésie, écrite dans les larmes, était banale et froide comme un devoir d'écolier. Il y parlait pourtant de cette belle image de femme attachée à ses yeux et de la porte baisée dans une nuit de folie. Monsieur Servien voyait avec inquiétude son fils, inexact, distrait, hagard, rentrer tard dans la nuit et se lever à peine à midi. Sous le regard muet du père, le fils baissait les yeux. Mais sa vie n'était plus dans la maison, elle était tout entière là-bas, près de l'inconnu, dans des régions qu'il imaginait éclatantes de poésie, de richesse et de volupté. Il retrouvait parfois, à un coin de rue, le marquis Tudesco, qui ne parvenait pas à remplacer son gilet de toile à matelas, et qui d'ailleurs conseillait à Jean d'adresser ses vœux à des demoiselles de magasin. Quand vint l'été, les affiches de théâtre annoncèrent coup sur coup Mithridate, Arédienne découvreur, Rodogune, Les enfants d'Édouard, La Flaminina. Jean, ayant obtenu le prix de sa place par ruse, par mensonge, en exploitant sa tente ou en glissant les doigts dans la caisse, assistait d'un fauteuil d'orchestre aux éclatantes transfigurations de celle qu'il aimait. Il la voyait, tour à tour, sainte du bandon blanc des vierges de la Hellas, semblable à ces figures taillées, si pures dans le marbre des bas-reliefs antiques et qui semblent revêtues d'une inaltérable innocence, puis en robe à ramages avec des boucles poudrées sur ses épaules nues, dont la minceur avait un accent indéfinissable et un goût de verte volupté, comparable alors à quelque amoureux pastel du temps jadis, que le fils du relieur avait vu chez les marchands du quai Voltaire. Puis, coiffée d'un épervier d'or, ceinte de lames d'or, sur lesquelles des rubis dessinaient des signes magiques, et revêtue de la magnificence inhumaine d'une reine d'Orient. Puis, sous le chaperon noir, en pointe sur le front, et dans la sombre robe de velours d'une veuve royale, dont il semblait qu'on eût vu le portrait religieusement conservé dans un salon du Louvre. Puis enfin, et c'est ainsi qu'il la trouvait la plus désirable, en amazone moderne, prise du col au talon dans une étroite robe de drap et coiffée hardiment d'un mignon chapeau d'homme. Pour passer sa vie dans ces mondes poétiques, il lisait Racine, les tragiques grecs, Corneille, Shakespeare, les vers de Voltaire sur la mort d'Adrienne le Couvreur, et tout ce qui, dans la littérature moderne, lui semblait élégant ou passionné. Et dans toutes ses créations, il ne voyait qu'une image. Étant allé un soir chez le distillateur avec le marquis Tudesco, qui gardait décidément son gilet à carreaux, il fit la connaissance d'un vieillard dont les cheveux blancs se répandaient en boucles sur les épaules et qui avait gardé les yeux bleus d'un enfant. C'était un architecte tombé en ruine avec les petites constructions gothiques qu'il avait élevées à grands frais aux environs de Paris vers 1840. Il se nommait Théroult. Ce bonhomme, misérable et souriant, abondait en histoires d'artistes et de femmes. Il avait bâti en son beau temps des maisons de campagne pour des actrices et pendu de joyeuses crémaillères dont le souvenir pétillait encore dans sa tête restée légère. Il n'en était plus à choisir des auditeurs et, mis en verve par du marasquin, il déroulait ses souvenirs comme une riche broderie en loques. Le fils du relieur, voyant un artiste pour la première fois, écoutait le vieux bohème en frissonnant d'enthousiasme. Toutes ces demi-gloires oubliées, toutes ces vieilles jeunesses dont parlait Théroult et que Servien se représentait en bandeau plat, une ferronnière au front ou bien avec de grosses boucles à l'anglaise sur les joues, comme il les avait vues dans les lithographies moisies qui traînent sur les quais, prenait pour lui une vie, un éclat inattendu et des familiarités piquantes. Possédé par son idée, il essaya d'amener au temps présent un homme qui semblait si bien connaître les femmes de théâtre. Il parla de la tragédie, mais Théroult dit que c'était un genre ridicule et récita des parodies. Jean nomma Gabriel T. T, oh, dit l'architecte romantique, j'ai beaucoup connu sa mère. Jean avait de sa vie entendu une phrase aussi intéressante. « Oui, je l'ai connu en 1842, » poursuivit Théroult, « à Nantes, où elle créa 14 grands rôles d'opéra en 6 semaines. » Et l'on croit que les chanteuses n'ont rien à faire. « C'est beau le théâtre, mais le malheur est qu'il n'y a pas un seul architecte capable de construire avec intelligence une salle de spectacle. Quant à l'aménagement de la scène, il est même à l'opéra, d'une naïveté à faire rougir un Polynésien. J'ai imaginé, moi, un système de décors circulaires dans le but de supprimer ces bandes de toile qui figurent le ciel sans produire la moindre illusion. J'ai aussi inventé un appareil de quinquet et de réflecteur situé de manière à éclairer les personnages de haut en bas comme le soleil. Ce qui est rationnel et non plus de bas en haut, comme la rampe, ce qui est absurde. Mais en effet, dit Servien, mais vous parliez de la mère de Gabriel T. C'était une belle femme, reprit l'architecte, grande, brune, avec de petites moustaches qui lui allaient très bien. Vous concevez l'effet de mon décor circulaire, un ciel immense répandant une lumière égale sur les acteurs et donnant aux formes leurs ombres naturelles. On joue la muette, je suppose. La cavatine du sommeil résonne sous un ciel diaphane, arrondi en voûte et donnant l'impression de l'infini. L'effet de la musique est double. Fenella se réveille, elle marche à pas rythmé. Son ombre qui l'accompagne sur le sol est rythmique comme elle. C'est la nature et l'art tout ensemble. Voilà ce que j'ai inventé. Et quant aux moyens d'exécution, mais ils sont d'une simplicité enfantine. Alors il entra dans des explications interminables, employant des termes techniques et cédant de tout ce qu'il trouvait sur la table, verre, soucoupe, allumette. Ses manches râpées, ailantes et venant, essuyait le marbre et choquait les verres. À ce bruit, le marquis Tudesco, qui dormait, entr'ouvrait instinctivement les yeux. Servien approuvait et disait comprendre pour en finir, et il conseilla ensuite à l'architecte d'essayer de mettre cette invention en pratique. Le vieillard haussa les épaules. Il y avait longtemps qu'il n'essayait plus rien. Mais au fond, il ne lui importait guère que son système fût appliqué. C'était un inventeur. Ramené une troisième fois par le jeune homme à la mère de Gabriel T. « Oh oui, non, je me bien réussi au théâtre, dit-il. Mais comme c'était une femme d'ordre, elle fit des économies. Elle frisait la cinquantaine quand je la retrouvai à Paris vivant avec Adolphe. Fort joli garçon de 25 à 26 ans, neveu d'un agent de change. C'était le ménage le plus tendre, le plus gai, le plus mignon du monde. Je n'ai jamais déjeuné une seule fois dans leur petit cinquième de la rue Têtebout sans être attendri jusqu'aux larmes. Mange ma chatte, bois mon loup, et des regards et des caresses et un air de contentement. Il lui dit un jour, ma chatte, ton argent ne te rapporte pas assez. Donne-moi tes titres, dans 48 heures j'aurai doublé ton capital. Elle ouvrit tout doucement son armoire à glace et lui remit ses valeurs une à une avec un petit tremblement dans les doigts. Oh, il les prit sans émotion, et il lui apporta le soir même un reçu où l'on lisait la signature de son oncle. 3 mois après, elle touchait des revenus magnifiques. Le 6e mois, Adolphe disparut. La vieilleté court chez l'oncle avec son chiffon de papier. « Mais je n'ai jamais signé cela, dit l'agent de change, et mon neveu n'a jamais remis le titre. » Alors T grimpe comme une folle chez le commissaire de police. Elle apprend qu'Adolphe, exécuté à la bourse, est parti pour la Belgique, emportant 120 000 francs escroqués à une autre vieille femme. Elle ne se remit jamais de ce coup, mais il faut lui rendre justice. Elle élevait sévèrement sa fille et ne plaisantait pas sur le chapitre de la vertu. Cette pauvre Gabrielle doit encore aujourd'hui se sentir la joue chaude, rien qu'à penser à ses années de conservatoire, car sa mère lui donnait alors matin et soir de belles gifles, oh, je le vois encore, Gabrielle dans sa robe bleue céleste, courant à ses leçons en grignotant des grains de café. C'était une bonne fille. Mais vous l'avez connue ? S'écria Jean, pour qui cette confidence était la plus grande aventure d'amour qu'il eût jamais eue. Le vieillard répondit : Oh, nous avons fait autrefois avec elle, en compagnie d'artistes, de bien bonnes promenades à cheval et à âne, dans les bois de Ville d'Avray. Elle s'habillait en homme, et je me rappelle qu'un jour. Il acheva tout bas son récit qui devenait scabreux. Il ajouta qu'il ne la voyait plus guère depuis qu'elle était avec M. Didier du Crédit Bourguignon. Ce financier avait chassé les artistes. C'était un personnage guindé, gourmé, plat et ennuyeux. Jean ne fut ni surpris ni choqué, outre mesure, d'entendre qu'elle avait un amant, parce que, ayant observé les mœurs des comédiennes dans les proverbes en vers d'Alfred de Musset, il se figurait l'existence de toutes ces actrices de Paris comme une fête spirituelle et galante. Il aimait celle-là, avec ou sans Didier, il l'aimait. Elle aurait eu comme lesbie 300 amants qu'il l'eût aimée tout autant. N'était-ce point ainsi que vont les passions de tous les hommes ? On aime parce qu'on aime, et voilà tout, et malgré tout. Quant à se sentir jaloux de M. Didier, il n'y songea même pas. Il n'était pas fou, cet enfant. Il était jaloux des hommes et des femmes qui la voyaient souvent passer dans la rue et des employés du théâtre qui s'approchaient d'elle les soirs de représentation. Pour le présent, cela seul était ses rivaux. Quant au reste, félicités et tortures, il se reposait sur l'avenir, sur l'ineffable avenir. D'ailleurs, la littérature romantique lui avait inspiré beaucoup d'estime pour les courtisanes, à condition qu'elles fussent accoudées mélancoliquement au balcon de leur palais de marbre. Ce qui le choquait dans les récits de l'architecte bohème, ce qui blessait son amour sans l'affaiblir, c'est tout ce que ces récits supposaient de vie inélégante dans la jeunesse de l'actrice. La grossièreté lui répugnait plus que tout au monde. Monsieur Tudesco, certain qu'on lui paierait ses cerises à l'eau de vie, ne se donnait pas la peine de parler et la conversation tombait quand l'architecte reprit négligemment « À propos, en allant à Bellevue avant-hier pour mes affaires, je l'ai rencontré, jeune homme, votre actrice à la grille de sa propriété, une maisonnette de rien, bâtie pour durer le temps d'une passion, avec un jardin de 6 mètres carrés. » Destiné à donner à un agent de change une idée approximative de la nature. Elle m'a invité à entrer, mais à quoi bon ? Elle était à Bellevue. Oh, j'oublie à tout ce que le récit du vieillard contre les ignominieux, et retint seulement qu'elle était à belle vue, et qu'on pouvait l'y voir dans la familiarité de la campagne. Il se leva. Monsieur Tudesco le retint par un pan de sa jaquette. Mon jeune ami, j'admire que vous s'éleviez d'un vol audacieux au-dessus des empêchements d'une humble condition, vers la beauté glorieuse et opulente. Vous cueillerez la splendide fleur qui vous attire, du moins je le souhaite. Mais combien il serait préférable que vous eussiez de l'amour pour une simple ouvrière, que vous pourriez séduire en lui offrant pour 10 centimes de pommes de terre frites et une place au paradis pour voir jouer un mélodrame. Je crains que vous ne soyez dupe de l'opinion, car une femme n'est pas beaucoup différente d'une autre femme, et c'est l'opinion seule, cette maîtresse du monde, qui donne un grand prix aux unes et un petit aux autres. Profitez, mon jeune et très doux ami, de l'expérience que m'ont donnée les vicissitudes de ma fortune, qui sont telles que je suis obligé à cette heure de vous emprunter la modique somme de 2 livres 10 sous. Ainsi parla le marquis Tudesco. Jean avait monté à pied le coteau de Bellevue. C'était à l'approche du soir. La rue du village, bordée de ronces et de chardons, grimpait entre des murs bas. Devant lui, les bois se perdaient dans un lointain bleuis. À ses pieds s'étendait la ville avec son fleuve, ses toits, ses clochers et ses dômes, la ville énorme et fumeuse qui avait allumé les désirs de Servien au gaz des théâtres et nourri ses fièvres dans la poussière des rues. Au couchant, une bande pourprée unissait le ciel et la terre. Une paix délicieuse descendait sur la campagne avec les lueurs tremblantes des premières étoiles. Mais ce n'était pas la paix que Jean Servien venait chercher. Encore quelques pas sur la chaussée pierreuse, et voici la grille tapissée de vignes vierges, telle qu'on la lui a décrite. Il la regarde longuement, avec piété. Il admire, à travers les barreaux, entre les branches sombres d'un arbre de Judée, un pavillon blanc à perron de pierre orné de 2 vases bleus. Rien ne bouge aux fenêtres, rien sur le sable de l'allée, ni voix, ni souffle, ni bruit de pas. Et pourtant, après une longue contemplation, il s'en va presque heureux, l'âme remplie. Il attendit sous les vieux noyers de l'avenue de l'heure où les fenêtres s'éclairent une à une dans la nuit sombre. Puis il revint sur ses pas. Comme il passait devant la gare où quelques personnes se hâtaient à l'approche du train, il vit dans cette confusion une grande femme en mantille embrasser une jeune fille qui partait. Ce visage clair sous la mantille et ses longues mains fines qui semblaient nues par volupté comme il les reconnut, comme il vit cette femme tout entière en un moment. Ses genoux fléchirent, il sentit quelque chose de doux comme s'il allait cesser d'être. Non, or, il ne savait pas qu'elle fût si belle, ni qu'elle eût tant de prix. Et il avait cru l'oublier. Il avait cru pouvoir vivre hors d'elle, comme si elle n'était pas à elle seule le monde et la vie. Il prit la ruelle qui conduisait à sa maison. Elle marchait d'un pas brusque en laissant traîner sa robe qui s'accrochait aux ronces et qu'elle dégageait en ramenant la main en arrière par un mouvement brutal. Jean, derrière elle, se frottait contre les mêmes ronces, s'y prenait, s'y piquait avec délices. Elle s'arrêta devant la grille et son profil, grand et pur, apparut à Jean dans la clarté bleue de la lune. Comme elle fut longtemps à tourner la clé dans la serrure, Jean put observer son visage, d'autant plus voluptueux qu'il n'était empreint d'aucun travail de la pensée. Il gémit de douleur et de colère à l'idée que dans une seconde, les barreaux de fer se dresseraient entre elle et lui. Il ne voulut pas que ce fût ainsi. Il s'élança, il lui prit la main, la pressa, la baisa. Elle jeta un grand cri de peur, le cri affreux de l'animal. Jean était à genoux sur la pierre du seuil. Il froissait cette main contre ses dents. Il enfonçait les bagues dans ses lèvres. Une femme de chambre accourut essoufflée avec une bougie éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? Dit-elle. Jean lâcha la main qu'il avait marquée d'une goutte de sang et il se releva. Gabrielle, haletante, cette main sur la poitrine, s'appuya contre la grille. Je veux vous parler, à vous, je le veux, dit Jean. Oh, voilà des manières! S'écria la femme de chambre. Passez votre chemin! Et elle montra avec ce chandelier les deux bouts de la rue. L'actrice avait encore le visage contracté par la peur. Sa lèvre retroussée et vibrante découvrait les dents qui brillaient. Mais elle comprit qu'elle n'avait rien à craindre. Que me voulez-vous? Lui dit-elle. Il avait perdu son audace depuis qu'il ne touchait plus la main. C'est avec une grande douceur qu'il dit: Madame, je vous en supplie, écoutez-moi seul un moment. Rosalie, dit-elle après une seconde d'hésitation, faites deux pas dans le jardin. Parlez maintenant, monsieur. Et elle resta sur le seuil, laissant la grille entr'ouverte comme elle l'était depuis le moment du baiser. Il parla dans toute la sincérité de son âme. J'ai seulement à vous dire, madame, que vous ne devrez pas me repousser, car je vous aime trop pour vivre sans vous. Elle parut chercher dans sa mémoire. Ah, n'est-ce pas vous, dit-elle, qui m'avez envoyé des vers? Il répondit que c'était lui. Elle reprit. Vous m'avez suivi un soir. Ce n'est pas bien, cela, monsieur, de suivre les dames. Je n'ai suivi que vous, et c'était bien malgré moi. Vous êtes jeune. Oui, mais il y a déjà longtemps que je vous aime. Cela vous est venu tout d'un coup, n'est-ce pas? Oui, en vous voyant. C'est ce que je pensais. Oui, vous êtes inflammable, à ce qu'il paraît. Je le sais, madame. Je vous aime et je suis bien malheureux. Je ne sais plus comment vivre et je ne veux pas mourir puisque je ne vous verrai plus. Laissez-moi près de vous quelquefois. On doit y être si bien. Mais monsieur, je ne vous connais pas, moi. C'est mon malheur, cela. Mais comment puis-je être un étranger pour vous? Vous n'êtes pas, oh non, vous n'êtes pas une étrangère pour moi. Je ne connais, je ne sais que vous au monde. Et il lui reprit la main qu'elle lui laissa baiser. Puis, c'est très joli, dit-elle, mais ce n'est pas un état que d'être amoureux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il répondit avec assez de franchise. Mon père est commerçant, il me cherche un emploi. L'actrice comprit que c'était un menu bourgeois, vivant tranquillement de peu, nourri dans l'épargne, serré, mesquin comme ses petits fournisseurs qui venaient lui demander des acomptes en geignant, et qu'elle rencontrait le dimanche en habit neuf dans les bois de Meudon. Elle ne ressentit pas pour lui l'intérêt qu'il lui eût également inspiré, riche avec des bouquets et des bijoux, ou pauvre et affamé à lui tirer des larmes. Il fallait l'éblouir ou l'attendrir, cette femme. Puis elle était habituée à des jeunes gens plus dégourdis. Elle se rappela un petit violon du conservatoire qui, un soir qu'elle avait eu du monde, fit mine de partir avec les autres et se cacha dans le cabinet de toilette. Comme elle se déshabillait, se croyant seule, il sortit de sa cachette avec une bouteille de champagne dans chaque main et riant comme un fou. Le nouveau était moins amusant. Pourtant, elle lui demanda son nom. « Jean Servien. »« Eh bien, monsieur Jean Servien, je suis fâché, très fâché de vous avoir rendu malheureux puisque vous dites que vous l'êtes. » Et comme elle était au fond de son cœur plus flattée que chagrine du mal qu'elle avait causé, elle répéta plusieurs fois qu'elle était très fâchée. Elle ajouta « Je n'aime pas faire de la peine aux gens. Chaque fois qu'un jeune homme est malheureux à cause de moi, j'en suis désolé. Mais de bonne foi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Allez, soyez raisonnable. Il est inutile que vous reveniez me voir, non. D'ailleurs, cela serait ridicule. J'ai une vie toute d'intérieur et il m'est impossible de recevoir des étrangers. » Il lui dit avec des sanglots, « Oh, je voudrais que vous fussiez pauvre et délaissé. Je viendrais alors et nous serions heureux. » Elle fut assez surprise qu'il ne lui prît pas la taille et qu'il ne pensa pas à l'entraîner dans le jardin sous le massif où il y avait un banc. Elle fut un peu déçue et comme embarrassée de n'avoir pas à se défendre. Trouvant que la suite de l'entretien ne répondait pas au début et que ce jeune homme devenait ennuyeux, elle lui poussa la grille au nez et se coula dans le jardin. Il la vit disparaître dans l'ombre. Elle emportait à sa main, sur le doigt, à côté d'un saphir, une goutte de sang. Dans sa chambre, en versant de l'eau sur ses mains pour laver ce sang, elle songea que tout ce qu'il en avait dans les veines de ce jeune homme coulerait pour elle quand elle le voudrait. Et cette idée la fit sourire. Alors, s'il avait été là, dans cette chambre près d'elle, peut-être qu'elle ne l'aurait pas renvoyé. Jean descendit la ruelle et courut par la campagne dans un état d'exaltation qui lui ôtait le sens des réalités et qui supprimait en lui toute joie, toute douleur et toute intelligence. Il ne lui souvenait plus de ce qu'il avait été avant ce baiser sur la main et il était un étranger pour lui-même. Il lui restait aux lèvres un goût voluptueux qu'il ressentait en les pressant l'une contre l'autre. Le lendemain matin, son ivresse était dissipée. Il tomba dans un grand abattement. Il se dit que tout était perdu. Il comprit que la grille tapissée de vignes vierges et de lierre, cette grille ouverte à plus d'un, lui était fermée par cette main capricieuse et facile et mieux plus impitoyablement qu'elle eût pu l'être par les verrous et les clés d'une femme chaste. Il devinait que son baiser n'avait pas mis de frisson dans cette chair et qu'il n'avait pas su mordre sur cette créature. Il ne savait plus ce qu'il avait dit, mais il savait bien qu'il avait parlé dans la grande sincérité de son âme. Il avait montré son ignorance et sa méprisable candeur. La chose irréparable était faite. Et pouvait-on être plus malheureux? Il avait perdu jusqu'à l'avantage d'être inconnu d'elle. Bien qu'il n'eût point d'orgueil, il rejeta sur le sort les insuffisances de sa nature. Ainsi donc, songeait-il, il était pauvre et il n'avait pas le droit d'aimer. Oh, s'il était riche et formé à toute la science des oisifs et des heureux, comme les magnificences de sa fortune seraient en harmonie avec les magnificences de son amour. Quel dieu inepte et féroce avait muré dans la pauvreté son âme pleine de désirs. Il ouvrit sa fenêtre et il vit l'apprenti de son père qui, en se rendant à l'atelier, abordait sur le trottoir avec une effronterie toute simple une brocheuse de sa connaissance. Il donnait des baisers à la fille, sans souci des passants, et sifflait en amateur. La fille, malsaine et jolie, admirablement campée dans ses loques sur des bottines bien faites, le retenait en feignant de le repousser. Et vraiment, ce garçon robuste et mince dans sa veste de toile bleue avait une grâce faubourienne et le bel air des bals de barrière. En s'en allant, elle retourna plusieurs fois la tête, mais il examinait les cervelas à la montre d'un charcutier, ne songeait plus à la fille. Jean, témoin de cette scène, se sentit jaloux de l'apprenti de son père. Il lut ce jour-là sur les affiches qu'elle jouait dans le spectacle du soir. Il la guetta à la sortie du théâtre et la vit qui donnait des poignées de main avant de monter en fiacre. Ce qu'il y avait d'âcre et de mauvais en elle, et qu'il n'avait pas remarqué dans la conversation de la veille, le frappa tout à coup. Alors il s'aperçut qu'il la haïssait, qu'il l'exécrait de toute la force de son intelligence, de ses muscles et de ses nerfs. Il eût voulu la déchirer, la broyer. Il ne pouvait soutenir sans fureur l'idée qu'elle se mouvait, qu'elle parlait, qu'elle riait, qu'elle vivait enfin. Il lui semblait bon du moins qu'elle souffrît, que la vie la blessât et fit saigner sa chair. Il fut content à la pensée qu'elle mourrait un jour et que rien alors ne resterait plus d'elle, rien de ses formes, rien de sa chaleur, et qu'on ne verrait plus les jeux magnifiques de la lumière dans sa chevelure, sur ses yeux et sur sa chair tantôt mate et tantôt nacrée. Mais ce corps qui lui donnait tant de colère était jeune, tiède et souple, pour longtemps encore, et plus d'un à qui il serait offert, elle le sentirait frémir et s'animer. Elle existerait pour d'autres sans exister pour lui. Cela était-il tolérable? Oh, que les délices de plonger un poignard dans ce sein tout chaud! Oh, la volupté de bien tenir cette femme renversée sous un genou et de lui dire entre deux coups de couteau « Suis-je ridicule maintenant ?» Telles étaient ses imprécations quand il sentit une main peser sur ses épaules. En se retournant, il vit une singulière figure, un gros nez en pied de marmite, des épaules hautes et fortes, des mains énormes et bien faites, un ensemble mal gracieux, puissant mais sympathique. Il chercha un instant d'où venait le monstre, puis il s'écria « Garneret !» Et sa mémoire lui représenta en une seconde dans la cour et dans les classes du pensionnat de la rue d'Assas un gros garçon, toujours au piquet pendant les récréations, recevant et donnant de grands coups de poing terribles de sincérité et de courage, laborieux, rude à ses maîtres, sans cesse enguignonné, mais étonnant de temps à autre la classe par des coups de génie. Il eut de la joie à retrouver ce camarade qui lui parut presque vieux, avec ses paupières froissées et ses gros traits. Ils se prirent le bras et, en se promenant sur le quai des airs, tandis que le léger clapotement de l'eau montait à leurs oreilles dans le silence de la nuit, ils se dirent l'un à l'autre leur passé bien court, leurs idées présentes et leurs espérances infinies. Garneret n'avait pas conjuré son ancien guignon. Il faisait de l'aube au soir des travaux gigantesques pour un géographe qui le payait comme le dernier de ses commis. Mais sa large tête était pleine de choses. Il s'occupait de physiologie et se levait avant le soleil pour faire des expériences sur le sens de la lumière chez les invertébrés. Afin d'apprendre à la fois l'anglais et la politique, il traduisait les discours de M. Disraeli. Il accompagnait tous les dimanches les élèves de M. Hébert dans leurs excursions géologiques aux environs de Paris. Le soir, il faisait aux ouvriers des conférences sur la peinture italienne et l'économie politique, et il ne passait pas une semaine qu'il ne fut terrassé pendant 24 ou 48 heures par une migraine atroce. Il passait aussi de longues heures chez sa fiancée, jeune fille sans dot, pas jolie, mais douce et délicate, qu'il adorait et qu'il comptait bien épouser dès qu'il aurait 500 francs devant lui. Servien comprenait mal cette nature de bon ouvrier pour laquelle le monde est une immense usine où l'on travaille habit bas, les manches retroussées, la sueur au front et une chanson aux lèvres. Il concevait encore moins un amour qui n'était pas né dans les prestiges du théâtre ou parmi les somptuosités de la vie oisive. Mais il sentait à tout cela un grand sens et une véritable force, et comme il avait besoin de confidents, il raconta ses amours à Garneret, avec l'accent d'un amer désespoir et un secret orgueil d'éprouver des douleurs distinguées. Garneret n'admira pas. « Mon bonhomme, dit-il, t'as pris toutes ces idées-là dans des bouquins romantiques. Comment peux-tu aimer cette femme puisque tu ne la connais pas ?»« Comment ?» Jean Servien ne le savait pas. Mais ses nuits, ses jours, les battements de son cœur, la fixité de sa pensée obsédée, tout lui prouvait que cela était. Il se récria, il parla d'influence mystérieuse, d'affinité, d'effluves et de divine essence. Garneret se prit la main face dans ses mains, il ne comprenait pas. Mais enfin, dit-il, cette femme n'est pas d'une nature différente de celle des autres femmes. Cette idée si simple surprit beaucoup Jean Servien. Elle le choquait à ce point que, pour ne pas l'admettre, il cherchait dans son esprit des raisons désespérées. Garneret parla des femmes. C'était un esprit judicieux que Garneret. Il rendait un compte exact des relations des sexes, mais il ne disait point à Jean pourquoi une figure aperçue entre mille donne plus de joie et de douleur que la vie ne semblait pouvoir en contenir. Il essaya pourtant d'expliquer cela, car il était d'humeur raisonnante. « C'est bien simple, dit-il. Il y a une douzaine de violons chez un brocanteur. Je passe, moi, vulgaire racleur de boyaux. Je les accorde, je les essaie, et joue sur chacun d'eux à grand renfort de fausses notes. Au clair de la lune, et j'allume mon tabac dans ma tabatière. Une musique à faire hurler des chats. Ganini passe d'après moi. Il explore d'un seul coup d'archet les plus secrètes profondeurs de ses boîtes harmonieuses. Le premier violon est sourd, le deuxième aigre. Le troisième, presque muet. Le quatrième enroué. Et cinq autres n'ont ni force ni justesse. Mais le douzième rend sous l'archet du maître des sons suaves et puissants. Paganini reconnaît un Stradivarius. Il l'emporte. Il le garde en jaloux. Il tire de cet instrument, qui aurait toujours été pour moi un sabot sonore, des notes qui font pleurer, qui font aimer et qui donnent l'extase. Il fait un testament pour qu'on renferme ce violon avec lui dans le cercueil. Paganini, c'est l'amant, la machine à table d'harmonie, c'est la femme. Il faut qu'elle soit bien construite, cette machine, et sorte de la boutique d'un savant luthier. Il faut surtout qu'elle tombe aux mains d'un exécutant habile. Mais mon pauvre Jean, à supposer que ta tragédienne soit un divin instrument de musique amoureuse, je ne te crois pas capable d'en tirer une seule note de volupté. Voyons, je ne passe pas mes nuits à souper avec des femmes de théâtre, mais nous savons ce que c'est qu'une actrice. C'est un animal, généralement agréable à voir et à entendre, toujours mal élevé, gâté par la misère d'abord et par le luxe ensuite. Fort occupée, de plus, ce qui la rend aussi peu romanesque que possible. Quelque chose comme une concierge devenue princesse et joignant les rancunes de la loge aux caprices du boudoir et aux fatigues de l'étude. tu n'as pas la prétention d'étonner T par tes munificences de bon goût. Ton père te donne 100 sous par semaine. C'est beaucoup pour un relieur, mais c'est peu pour une femme dont les robes coûtent de 500 à 3000 francs chacune. Et comme tu n'es ni directeur de théâtre pour signer des engagements, ni auteur dramatique pour donner des rôles, ni journaliste pour faire des articles, ni commis de nouveauté pour profiter d'un caprice dans les hasards de la livraison à domicile, je vois pas du tout comment tu pourras te faire aimer et je trouve que ta tragédienne a eu bien raison de te fermer la grille au nez. Eh bien, s'écria Jean Servian, je t'ai dit que je l'aimais. Oui, bien, ce n'est pas vrai. Je la hais. Je la hais pour tous les tourments qu'elle m'a donnés. Je la hais parce qu'elle est belle et qu'on l'aime. Et je hais toutes les femmes parce que toutes aiment et que ce n'est pas moi. Garneret se mit à rire. Franchement, dit-il, elles n'ont pas tout à fait tort de ne pas t'aimer. Tu n'as dans tes passions rien d'affectueux, rien de bienfaisant, rien d'utile. Depuis que tu aimes Mademoiselle T, as-tu jamais pensé un seul moment à lui épargner une peine? As-tu rêvé de te sacrifier pour elle? S'est-il glissé quelque chose d'humain dans ton amour? Y sent-on la force ou la bonté? Non! Eh bien, lorsqu'on est de pauvres diables comme nous et qu'on a tout à conquérir dans la vie, il faut être courageux et bon. Bah, allez, il est 1h30 et je dois me lever à 5. Bonne nuit, calme-toi et viens me voir. Il ne restait plus que 3 jours à Jean pour se préparer à l'examen pour l'admission au ministère des Finances. Il les passa à la maison, où les figures de son père, de sa tante et de l'apprenti lui semblaient étrangères, tant elles étaient sorties de sa pensée. Monsieur Servien, mécontent de son fils, se taisait devant lui par timidité et par délicatesse. La tante le subjuguait par son excès de tendresse radoteuse. Elle entrait la nuit dans sa chambre pour voir s'il dormait bien. Tout le jour, elle lui contait ses misères et ses haines. Ayant surpris ses propres lunettes sur le nez de l'apprenti, elle gardait de cette profanation une sorte d'horreur religieuse. « Ce garçon est capable de tout !» disait-elle. Un des divertissements de l'apprenti était d'exécuter sur le dos de la vieille fille la danse des Caraïbes, anthropophage, qu'il avait vue dans quelques théâtres. Il se mettait dans les cheveux des plumes arrachées à un plumeau. Il tenait entre ses dents un grand couteau sans manche, et il s'approchait d'elle, accroupi et sautillant, avec des grimaces féroces qu'il remplaçait peu à peu par l'expression d'une avidité déçue, à mesure qu'il constatait combien sa proie était dure et coriace. Et Jean riait de cette mimique vulgaire et drôle. La tante n'avait jamais eu de ce petit drame joué sur ses talons une idée bien nette, mais s'étant parfois brusquement retournée, elle avait soupçonné quelque irrévérence. Et pourtant, elle supportait cet enfant parce qu'il était du peuple. Elle ne haïssait vraiment que les riches. Elle s'indignait que sa bouchère fût allée en robe de soie à une messe de mariage. Il y avait au haut de la rue de Rennes, au bord d'un terrain vague, dans une échoppe, une marchande de pain d'épices poudreux et de bâtons de sucre d'orge rance. Cette femme avait un teint couleur de brique, sous une marmotte de cotonnade et des yeux d'un bleu clair et dur. Tout son état n'avait pas coûté 2 francs, et quand il faisait du vent, la poussière blanche des maisons en construction le couvrait comme un badigeon. Les bonnes et les mères tiraient vivement les petits-enfants qui lorgnait la marchandise. « C'est sale !» disait-elle. Mais cette femme n'avait pas l'air d'entendre, et l'on eût dit qu'elle ne ressentait plus rien. Elle ne mendiait pas. La Servien qui disait bonjour en passant l'appelait par son nom, parlait avec elle devant les chopes, quelquefois un quart d'heure. Elles conversaient toutes deux des voisins, des accidents arrivés sur la voie publique, des chevaux maltraités par les cochers, des peines de cette vie et du bon Dieu, qui n'est pas toujours juste. Il arriva à Jean d'assister à un de ces entretiens. Cette saveur des petites existences, ce goût particulier des vies misérables, paresseuses et résignées, remuait tout son sang dans ses veines de plébéien. En un moment, entre ces deux vieilles couleurs de pierre et n'ayant de vie que celle de la rue, tantôt sombres et désertes, tantôt ensoleillées et peuplées, le jeune homme en apprit plus sur l'existence que l'on lui en avait enseigné au collège. Sa pensée alla de cette femme à l'autre, si belle et qu'il aimait, et il se fit de la vie une idée mélancolique et large. Il se dit qu'elles mourraient toutes deux, et une affreuse vieille, accroupie devant des gâteaux moisis, lui rendit cette impression de morne sérénité qu'il avait ressentie devant les joyaux funéraires de la reine d'Égypte. Après s'être exercé tout le jour à des petits problèmes d'arithmétique, il s'en alla le soir en habit de travail jusqu'à l'avenue de l'Observatoire. Là, entre deux chandelles, devant un châssis tapissé de romances à vignettes, un homme chantait d'une voix éraillée en s'accompagnant d'une guitare. En cercle autour de lui, des ouvriers et des filles écoutaient la musique. Jean s'y glissa, par cet instinct qui pousse vers la lumière et le bruit les promeneurs distraits, et par cette sorte d'amitié pour la foule qui est dans les mœurs parisiennes. Là, plus isolé, plus seul qu'ailleurs, il songeait aux magnificences voluptueuses de quelques belles tragédies de Ripide ou de Shakespeare. Quelque chose de doux, qu'il ne sentit pas tout d'abord, le touchait et le pressait. Il se retourna et vit une ouvrière en petit chapeau noir à ruban bleu. Elle était jeune et assez jolie. Il songeait aux grâces terribles et surhumaines d'une Électre ou d'une Lady Macbeth. Elle continua de se tapir contre son dos jusqu'à ce qu'il tournât de nouveau la tête. « Monsieur, lui dit-elle alors, voulez-vous me permettre de passer devant vous? Je suis si petite, je ne vous empêcherai pas de voir. » Elle avait une jolie voix. Sa tête toute levée, tendue sur un cou potelé, montrait des yeux brillants et des dents saines entre des lèvres gourmandes. Elle se coula, gaie et vibrante, à la place que Jean lui céda sans rien dire. L'homme à la guitare chanta une romance sur les oiseaux en cage et les fleurs en pot. Moi, dit l'ouvrière à Jean, moi j'ai des giroflées et des oiseaux, ce sont des serins. Il songeait à quelques blanches figures errant sous les créneaux d'une tour. L'ouvrière reprit, j'en ai deux, vous comprenez, pour pas qu'ils s'ennuient. Deux, c'est un joli nom, pas vrai? Il s'en alla avec ses visions sous les vieux arbres de l'avenue. Après deux tours de promenade, il vit la petite ouvrière au bras d'un beau garçon, habillé à la mode, avec une grosse chaîne de montre. Ce garçon lui prenait la taille dans l'ombre. Elle riait. Alors Jean Servien eut regret de l'avoir dédaigné. Jean, appelé à subir l'examen sans préparation suffisante, s'embrouilla dans les entortillements d'une dictée obscure et captieuse et dans des calculs trop longs pour le temps fixé au candidat. Il rentra désespéré à la maison. Son père essaya par bonté de le rassurer, mais appelé à 15 jours de là par une lettre non affranchie, il fut introduit après 3 heures d'attente dans le cabinet de M. Bargemont. Il reconnut sa propre dictée dans la main du gros homme. J'ai le regret, lui dit le fonctionnaire, de vous annoncer que vous avez totalement succombé dans les épreuves qui vous étaient imposées. Vous ignorez la langue de votre pays, monsieur. Vous écrivez Maison Laffitte sans S à maison. C'est une faute d'orthographe. Et qui plus est, vous ne barrez point vos T. Comment pouvez-vous ignorer à votre âge qu'un T doit être barré? C'est inexplicable. Et frappant un grand coup de la feuille de papier sur laquelle les fautes étaient marquées à l'encre rouge, il répétait: Mais c'est inexplicable! Sa face s'empourprait et on lui voyait au front une grosse veine. Quelque chose de singulier dans la physionomie de Jean l'arrêta. Jeune homme, reprit-il d'un ton plus calme, tout ce que je pourrais faire pour vous, je le ferai, soyez-en sûr, mais il ne faut pas me demander l'impossible. Nous ne pouvons pas attacher au service de l'État des jeunes gens qui ignorent l'orthographe jusqu'à écrire Maison Laffitte sans S à maison. C'est en quelque sorte un devoir de patriotisme pour un Français de connaître sa langue. Dans un an, le ministère ouvrira une session d'examen, je vous inscrirai. Vous avez un an devant vous, allez, travaillez, apprenez votre langue. Jean, tout rouge, enflammé de haine et de colère, les yeux fixes, la gorge sèche, les dents serrées, incapable de dire un mot, se retourna tout d'une pièce et fit claquer la porte avec un bruit de tonnerre. Des piles de papiers et de livres s'éboulèrent du coup dans le cabinet du chef. Monsieur Bargemont, seul et stupéfait, songea toutefois à sauver l'honneur de l'administration. Il rouvrit la porte et cria: Sortez! À Jean qui, repris par sa débilité naturelle, se sauvait comme un voleur dans les corridors.